terme du serment. Donc on a dit le serment que fait la Neshama, c'est Tehi Tzadik. Si tu fais partie de l'élite qui sont des Tzadikim, alors à ce moment-là, reste un Tzadik toute ta vie. Donc ne fais pas comme Yohanan Kohen Gadol. Et si tu ne fais pas partie de cette élite, alors au moins Al Tehi Racha, ne sois pas un Racha, c'est-à-dire sois un Beinoni et fais en sorte de repousser le mal en permanence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que on a vu que le tzaddik, il a un état naturel de tzaddik, alors que le Beinoni, il est dans une situation permanente de lutte? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, à un moment, cesser de lutter et faire en sorte que le mal soit définitivement vaincu? C'est la question avec laquelle on a conclu hier soir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le mal, il implique une lutte permanente et il n'y a pas de victoire définitive du mal? La réponse à cette question, on peut la trouver dans le début de la Torah. Le début de la Torah, c'est écrit lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le Gan Eden sur terre. Gan Eden a été retiré de la terre après la faute. Dans un premier temps, au moment de la création du monde, le Gan Eden se trouvait sur terre. Et donc, c'est l'existence du Gan Eden sur terre qui nous explique que, comme vous le savez, dans la Kabbalah, on dit que notre monde est le monde du Tikkun, le monde de la réparation. Donc, quelle est la réparation qui doit être faite dans le monde? La Torah nous dit qu'au début de la création, on dit Va'iyu shneem arumim velo yidbo shashu. Adam et Chava étaient tous les deux dans le Gan Eden, ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nudité n'avait pas nécessairement une connotation négative. Le Gan Eden était le lieu de l'existence du monde dans lequel le bien et le mal étaient hermétiquement séparés. Et donc, à partir du moment où le bien et le mal sont séparés, la nudité n'évoque pas nécessairement une notion de mal. Par contre, lorsqu'ils ont fait la faute, alors on voit que la conséquence immédiate de la faute, c'est qu'ils ont été se faire des vêtements. C'est-à-dire, ils ont retiré l'état de nudité. Donc, vous voyez que si on prend cette façon-là de définir la faute, on voit que avant la faute, la nudité n'est pas nécessairement connotée au mal. Après la faute, la nudité est nécessairement connotée au mal. Donc ça nous permet de comprendre l'effet de la faute dans le monde. Dieu a créé le monde dans un premier temps de telle façon que le bien et le mal étaient séparés l'un de l'autre au sein de la création. La faute a eu pour effet de mélanger le bien et le mal dans la création. Ça veut dire que depuis la faute de Adam Arishon, le premier homme, il n'y a plus de mal intégral, comme il n'y a plus non plus de bien intégral. Le bien et le mal sont mélangés dans le monde, et donc le tikkun, la réparation dont nous parle la Kabbalah, c'est séparer le bien du mal. Entre parenthèses, cette interprétation de la faute d'Adam Arishon nous permet de comprendre ce qui est écrit dans la Torah. La Torah nous dit, au moment où Adam Arishon a mangé le fruit de Chet et Tzadahat, alors on voit que le Dieu dit après, il faut vite le renvoyer du Gan Eden. Pen yishlach yado be'etz achayim vechay leolam. De peur que, de la même façon qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il va manger également de l'arbre de la vie. Et à ce moment-là, il aura une vie éternelle. Donc vous voyez que, exprimé de cette façon-là, si on regarde le sens simple du verset, c'est difficile à comprendre. On va vite le renvoyer du Gan Eden de peur qu'il mange de l'arbre de la vie et qu'il va vivre éternellement. S'il vit éternellement, en quoi c'est tellement dramatique? Pourquoi c'est dramatique que le 2 minutes? Pourquoi c'est tellement dramatique que sa vie soit une vie éternelle? Alors donc, l'explication, c'est que le bien et le mal ont été mélangés au sein de la création. Si maintenant on lui donne la vie éternelle, à ce moment-là, le tikkun devient impossible. La vie éternelle fait en sorte que, de même que le bien a une existence éternelle, le mal également a une existence éternelle. C'est la raison pour laquelle on renvoie Adam Harishon de façon à ce que son existence ne soit pas éternelle et que son existence soit consacrée au tikkun, à la réparation qui va séparer le bien et le mal qui ont été mélangés au sein de la création. Donc, ça veut dire que... Qu'est-ce que vous n'avez pas compris?
Pourquoi il ne faut pas que Adam Harishon reste éternel?
Parce que Adam Harishon porte en lui, après la faute, le bien et le mal. Et donc, il a un effort à faire pour réaliser le tikkun dans le monde. Tant qu'il n'a pas réalisé ce tikkun, le bien et le mal sont mélangés au sein de sa personnalité. Et donc, lui donner la vie éternelle, c'est donner la vie éternelle non seulement au bien qui est en lui, mais aussi au mal qui est en lui. Donc, le mal doit être uniquement éphémère. C'est la raison pour laquelle le terme qui est employé dans la Kabbalah pour désigner le mal, c'est klipa. Klipa, ça veut dire une écorce. Une écorce, c'est par nature ce qui n'a pas d'existence éternelle. L'écorce, elle voile le fruit. Et d'un autre côté, l'écorce, elle est nécessaire pour conduire le fruit à maturité. Et ensuite, une fois que le fruit arrive à maturité, alors l'écorce tombe. Ça veut dire que le mal n'a pas d'existence éternelle, le mal est là pour protéger le bien, et c'est en fait, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est grâce au mal que le bien est réellement bien. Parce que c'est la lutte contre le mal qui fait que le bien devient réellement bien. C'est la raison pour laquelle, dans la Torah, on nous dit, 6e jour de la création, on dit « Vayar Hashem et kol asher asa ve'ine tov me'od » Dieu a vu tout ce qu'il a fait, c'était très bien. Et Chachamim nous explique que ça veut dire Tov Meod, Tov Zebriata Tov, Tov Meod Zebriata Ra. Tov, c'est la création du bien, Tov Meod, c'est la création du mal. Le bien qui est uniquement bien, il est seulement Tov. Et ce bien devient Tov Meod uniquement lorsque le bien est un bien en différenciation avec le mal. Donc, l'enjeu de la création, l'enjeu de ce qui se passe dans le monde, c'est d'arriver à séparer le bien et le mal qui ont été mélangés dès le 6e jour de la création. Donc, cette différenciation entre le bien et le mal, elle se fait à 2 étapes. Elle se fait à l'échelle du monde et elle se fait à l'échelle de l'individu. Quand on dit qu'elle se fait à l'échelle du monde, ça veut dire que lorsque dans le monde, globalement, collectivement, le bien et le mal ont été séparés entièrement, alors à ce moment-là, le mal disparaît et le monde révèle son existence véritable, c'est la venue du Mashiach. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est très important de le comprendre. On pourrait penser, pas une idée aberrante a priori, on pourrait penser que la venue du Mashiach est une récompense. Dans un premier temps, on fait ce qu'on nous demande, et puis ensuite, une fois qu'on a fait ce qu'on nous a demandé, alors après, dans un second temps, Dieu accorde la récompense de ce qu'on a fait. Alors en fait, ce n'est pas notre conception. La venue du Mashiach, ça n'est pas une récompense. La venue du Mashiach, c'est un aboutissement. La venue du Mashiach, c'est la raison véritable de la création. Dieu a créé le monde pour dévoiler sa présence au sein de la matière du monde. Le moment où Dieu sera pleinement dévoilé dans la matière du monde, c'est le moment de la venue du Mashiach. Autrement dit, à l'heure actuelle, lorsque nous préparons la venue du Mashiach, nous sommes dans la phase préalable de la création. On arrivera à l'aboutissement de la création, à la raison pour laquelle Dieu a créé le monde. Dira batartonim, ni tave akadosh baruchu, liotlo ikbar dira batartonim. On va voir un peu plus loin dans le Tania. Dieu a voulu avoir une résidence dans le monde. Cette résidence sera construite lorsque le Mashiach viendra. Donc tout ce qui se passe avant la venue du Mashiach n'est qu'une phase préalable de la création. Et donc la venue du Mashiach n'est pas une récompense, mais c'est un aboutissement. C'est pas uniquement une nuance, c'est une différence fondamentale. Lorsqu'on parle de récompense, vous voyez que la récompense, le salaire, vient dans un deuxième temps. C'est-à-dire que il y a d'abord le travail, et ensuite, dans un second temps, il y a le salaire qui vient rémunérer le travail. Lorsque il s'agit de deux périodes différentes, ça veut dire que les deux ne sont pas nécessairement liés entre eux. C'est la raison pour laquelle deux personnes qui fournissent le même travail n'ont pas nécessairement le même salaire. Ça veut bien dire que le travail et le salaire sont deux phases différentes. Donc, si on disait que l'avenue du Mashiach, c'est l'aboutissement de la le salaire de la création, la récompense de la création, ça veut dire qu'il y a une première étape de la création qui est le monde actuel, et qu'il y a ensuite une seconde étape de la création qui n'est pas nécessairement liée avec la période actuelle, qui est l'avenue du Mashiach. Donc c'est pas du tout notre conception. Tout ça ne se passe qu'en une seule période. La venue du Mashiach, c'est l'aboutissement direct de la création telle qu'elle est à l'heure actuelle. Donc c'est pas quelque chose de nouveau qui va se passer dans le monde au moment où Mashiach viendra, c'est l'aboutissement de ce qui existe à l'heure actuelle. Ça, c'est donc la première dimension, la dimension du monde, la dimension de l'univers, de la création. Ensuite, il y a la dimension individuelle. Dimension individuelle, ça veut dire que chaque âme, il y a au total 600 000 âmes, une âme peut se répartir en une infinité d'âmes, chaque âme se répartit à son tour en 600 000, et chacune de ces 600 000 parties d'âme peut à son tour se découper en une infinité d'âmes qui peuvent à elles seules faire vivre des corps. Donc il peut y avoir une infinité de séparations à l'intérieur de l'âme, mais globalement, une fois qu'on fait la somme de tout ce qui a été accompli par toutes les parties d'une âme, alors il y a 600 000 âmes, et donc, de même qu'il y a une mission qui est confiée au monde, dans sa globalité, il y a également une âme qui est confiée à l'âme, une mission qui est confiée à l'âme à titre individuel. L'âme reçoit une partie du monde qui lui est confiée, et lorsque, dans cette partie du monde, elle a séparé le bien et le mal, alors cette âme a terminé son travail ici en bas dans le monde, et elle va continuer son travail là-haut, sous une autre forme, sous une forme purement spirituelle. Donc vous voyez que dire qu'un homme a vaincu le mal définitivement et qu'à partir de maintenant il n'a plus à lutter contre le mal, c'est aller à l'encontre même de la définition de la mission qui lui est confiée en bas dans le monde. Un homme se trouve en bas dans le monde parce qu'il lutte. Je ne parle pas des tzadikim. Les tzadikim sont dans une catégorie à part. Je parle de l'homme qui lutte pour être un beinoni. À partir du moment où on lutte pour être un beinoni, la lutte est une lutte constante, et à aucun moment on peut imaginer une victoire définitive et un retrait du mal, parce qu'à partir du moment où l'homme ne lutte plus contre le mal, alors il n'a plus sa place dans le monde matériel, il doit remonter là-haut. Donc il y a une lutte permanente, et cette lutte permanente permet à chaque neshama d'accomplir la mission qui lui est spécifiquement confiée. Ça veut dire que même si tout le monde accomplit les mêmes mitzvot, même si le Shulchan Aruch s'applique à tout le monde de la même façon, néanmoins, la mission de chaque âme est différente. C'est-à-dire que Dieu a réparti la matière du monde entre les 600 000 âmes, et chacun doit lutter contre le mal, c'est-à-dire séparer le mal du bien, dans une partie du monde matériel qui lui a été confiée. Et donc, à partir du moment où sa mission est accomplie ici en bas dans le monde, après son existence devient une existence purement spirituelle. Donc vous voyez que la lutte est une lutte permanente, et que cette lutte permanente, c'est la définition même de la vie, la définition de l'existence. Donc après qu'on a vu le terme, les termes du serment, le Tania nous dit Ve'afilu kol ha'olam kulo omrim lecha tzadikata, même si le monde entier te confirme que tu es un tzadik, Eye be'enecha kerasha. Tu dois te considérer à tes propres yeux comme un rachat. D'abord, vous voyez bien que le texte dit « qu'est rachat ?» comme un rachat et non pas « rachat ». Il ne dit pas « ayez benecha rachat ». Un homme n'a pas le droit de se considérer lui-même comme un rachat. Dans la Gemara, on dit « en adam esim atzmo rachat ». Un homme n'a pas le droit de se présenter lui-même comme étant un rachat. Par contre, on peut être « qu'est rachat ?» comme un rachat, comme un rachat au sens où le rachat a le mal en lui, mais le Beinoni, qui a également le mal en lui, sait lutter contre ce mal en permanence. Donc, il est comme un rachat dans la mesure où il a du mal en lui, et en même temps, il est aussi comme le tzadik dans la mesure où, à aucun moment, le mal n'est vainqueur dans sa personnalité. Donc, le serment est fait avant la naissance physique, et ensuite, pendant toute l'existence physique, alors on dit « Eye benecha keracha » continue à te considérer toi-même comme un rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on arrête de se considérer comme un rachat, c'est-à-dire un beinoni, si on se considère comme étant un tzadik, alors on cesse la lutte. Et à partir du moment où on cesse la lutte, le mal reprend le dessus. La lutte est une lutte constante et il ne peut pas y avoir de match nul. Ça, on dit où le homme mille homme yemots, Rivka avait deux enfants dans le ventre, un qui symbolise le bien, un qui symbolise le mal. Et donc, un peuple se dresse contre l'autre. Rashi nous explique que chez Zekam Zenofel, lorsque l'un se dresse, l'autre tombe. Il n'y a pas de mi-chemin. Il y a ou une victoire du bien ou une victoire du mal. Ça aussi, c'est une idée très importante qui est introduite par la Chassidoute. On pourrait penser, a priori, que Dieu a créé le monde de telle façon qu'il y a dans le monde un très grand nombre de situations neutres. Vous voyez qu'il y a, a priori, beaucoup de situations qu'on n'est pas capable de rattaché objectivement au bien ou au mal. Donc on pourrait être tenté de dire ce sont des situations neutres. Si vous avez un bout de cuir et que vous l'utilisez pour fabriquer des tefilines, vous faites de toute évidence une utilisation positive. Si vous, avec le même bout de cuir, vous fabriquez un fouet et que vous fouettez des gens, vous faites de toute évidence une utilisation de mal. Maintenant, vous voyez que entre ces deux extrêmes, il y a toute une série de situations intermédiaires. Avec le même bout de cuir, vous pouvez fabriquer des chaussures, un portefeuille. Donc on pourrait penser que fabriquer des chaussures ou fabriquer un portefeuille, c'est une utilisation neutre. Donc la Torah nous dit rien n'est neutre. Lorsque le portefeuille est utilisé pour donner de la tzedaka, le portefeuille se trouve dans une situation tout aussi positive que le cuir qui est utilisé pour les tefilines. Lorsque les chaussures sont utilisées pour aller commettre un crime, les chaussures participent elles-mêmes à ce crime. Donc les chaussures s'inscrivent dans le mal, puisque celui qui a décidé de faire une mauvaise action, de se rendre dans un certain endroit où il va aller faire une mauvaise action, a besoin de ses chaussures pour se rendre dans cet endroit-là. À partir de ce moment-là, ces chaussures ont une objectivement une utilisation mauvaise. Donc il n'y a rien qui est neutre dans le monde. Chaque situation est nécessairement un mélange de bien et de mal. Et l'homme doit utiliser sa perspicacité pour détecter le mal. Parce que le mal peut être malin. Le mal, il peut avoir des moyens de se cacher, de ne pas faire comprendre qu'il est le mal. Donc il faut savoir le débusquer, il faut savoir l'identifier de façon à pouvoir lutter contre. C'est la raison pour laquelle on dit « Eye benecha keracha » considère-toi à tes propres yeux comme un rachat. Autrement dit, sois en état permanent de lutte.
D'éveil.
Ne pense pas à aucun moment que quelque chose a été définitivement acquis. Il faut en permanence lutter. Et Tsarich Lehavin, donc l'Admor HaZaken pose la question, Tsarich Lehavin, le rabbi insiste sur cette expression, Tsarich Lehavin, il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y a une difficulté dans la Torah, ça veut dire nécessairement que quelque chose échappe à ma compréhension. On ne peut pas s'insurger contre une idée de la Torah. On ne peut pas aller à l'encontre d'une idée de la Torah. Lorsque une idée de la Torah me choque, lorsqu'une idée de la Torah me paraît inaccessible, alors tsarich lehavin, ça veut dire que je dois la comprendre. Je ne suis pas encore arrivé au niveau où je comprends exactement ce que la Torah veut me dire. Mais nécessairement, il y a quelque chose à comprendre dans l'enseignement de la Torah. Donc lorsque je me pose une question, cette question, elle appelle de ma part une étude plus approfondie. Et à ce moment-là, j'ai la certitude qu'en ayant cette étude approfondie, j'arriverai à comprendre ce qui, dans un premier temps, m'échappe. Oui ? Absolument. Alors pourquoi cette différence ? C'est parce que il y a une différence entre la Gemara et la Chassidut, c'est-à-dire Pnimiyut HaTorah. Dans la Gemara, en particulier quand on étudie le Talmud Bavli, alors on trouve une explication des Chachamim qui est en apparence difficile à comprendre. Il y a un verset dans Echa, qu'on lit justement à Tisha B'Av, on dit, le verset il dit Bemachashakim Hoshivani. Dieu m'a fait asseoir dans l'obscurité. On trouve une explication surprenante dans la Gemara. La Gemara nous dit Bemachashakim Oshivani Ze Talmud Bavli. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu m'a fait asseoir dans l'obscurité? Ça veut dire que Dieu m'a donné le Talmud Bavli. Donc la Gemara a été construite de telle façon que la vérité est cachée. Et donc la question est exprimée sous telle forme qu'elle heurte ma compréhension. Et c'est en heurtant ma compréhension qu'on arrive à réveiller l'explication. Dans les termes de la Chassidoute, c'est ce qu'on appelle Or Choser. Une différence entre Or Yachar et Or Choser. Si on jette un ballon à quelqu'un, il y a deux façons de jeter. On peut jeter directement dans le sens, là où il y a un but, là où on veut marquer le but. Et puis il y a une deuxième possibilité, c'est que par exemple, je vais envoyer le ballon ici. Je vais l'envoyer contre ce mur, et à ce moment-là, le ballon va buter contre le mur et repartir dans l'autre sens. Et par ricochet, à ce moment-là, je vais atteindre mon but. Et donc, en apparence, lorsque je jette le ballon dans cette direction, alors que mon intention, c'est de l'envoyer dans l'autre direction, je fais un geste irraisonné. Concrètement, on s'aperçoit qu'une fois que le ballon va rebondir, il va aller là où j'ai besoin qu'il aille. Ça veut dire que finalement, il y a deux moyens d'arriver. On peut aller de manière directe et on peut aller par ricochet. La Gemara va par ricochet. C'est la raison pour laquelle on trouve dans la Gemara des expressions « vekaché », c'est difficile à comprendre, « tamoua », c'est étonnant. Par contre, dans la Kabbalah, dans la Chassidut, on nous dit « let taman lo kushia velo tirutsim velo pirukin ». Il n'y a pas, on ne verra jamais dans la Gemara, dans la Chassidut, un échange du genre « telle question se pose, j'ai du mal à répondre à la question et donc j'introduis la réponse ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe. La Chassidut procède de telle façon qu'elle envoie l'éclairage directement dans la direction où elle doit éclairer. Donc ça veut dire.
C'est ça qui a marqué Tashma et Tahazé.
C'est ça que c'est écrit, Tashma et Tahazé, effectivement. Dans la Gemara, l'expression c'est Tashma. Donc Tashma, ça veut écouter, ça veut dire que le fait d'écouter, ça retire une certaine clarté. Vous voyez que quand je vous donne une description, c'est seulement lorsque vous arrivez à la fin de cette description que vous avez une vue d'ensemble de ce que je voulais dire. tant que j'ai pas fini mon exposé, vous savez pas encore exactement ce que je veux dire. Par contre, tachazi, l'expression courante dans le Zohar, tachazi, ça veut dire viens voir. Vous voyez que quand on voit, en un seul coup d'œil, on peut embrasser tout un panorama. Donc ce sont deux façons différentes de percevoir la Torah, et les deux à la fois se complètent. On a besoin des deux façons de comprendre la Torah. Ça veut dire que dans un premier temps, l'accès à la partie profonde de la Torah n'a pas été réservé à tous. Ça fait rien. Attention, il n'y a pas de. Ça ne veut pas dire que le Tania c'est une Gemara. Alors il explique, mais même dans la Gemara, il y a aussi une explication qui appartient à la Chassidoute. Simplement, on a besoin de la Chassidoute pour nous donner l'explication de la Gemara. Ça veut dire que lorsque Dieu a donné la Torah, dans un premier temps, il a donné la partie révélée de la Torah. On trouve un verset dans la Torah qui dit « Machatzti va'ani erpa ». J'ai coupé en deux et je vais guérir cette coupure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment de matin de Torah, la Torah a été donnée de telle façon qu'on a fait une coupure entre la partie révélée de la Torah et son enseignement profond. Et ensuite, lorsque le Mashiach viendra, à ce moment-là, on supprimera cette coupure et on verra que les deux parties de la Torah n'en font qu'une seule. En particulier, vous voyez que l'enseignement du Rabbi en particulier fait appel en permanence à la Gemara pour pouvoir comprendre la Chassidoute et de même à la Chassidoute pour pouvoir comprendre la Gemara. Donc on voit que la Chassidoute qui préfigure la venue du Mashiach, elle préfigure également cette suppression de la coupure qui existe entre les deux parties de la Torah. Donc, l'explication des Hatnan, on a appris dans une Mishnah, Avot Perek Bet, Ve'al Teirasha Bifne Atzmecha. C'est ce qu'on vient de voir. Un homme n'a pas le droit de se considérer comme un rachat parce que la conscience d'être un rachat, c'est la conscience de l'échec. On n'a pas le droit de vivre dans une situation où on se limite soi-même à un constat d'échec. Un homme a besoin de ressentir sa propre réussite et donc sa propre réussite, elle est liée au fait d'aller de l'avant. Quelqu'un qui se dit « je suis en état permanent d'échec, j'y arriverai pas de toute façon », alors il perd le moteur qui lui permet d'aller à l'avance. Ensuite, on voit qu'après avoir cité une preuve de la Mishnah, alors la Gemara Zaken complète la preuve de la Mishnah par une preuve logique. « Vegam imiye be'enav keracha » Si on permet à un homme de se considérer comme un rachat, si on retire l'interdiction halachique de se trouver dans un constat d'échec. Si on permet à l'homme de se considérer comme un rachat, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Yera levavo, on en aura mal au cœur, et à ce moment-là, yé etsev, on sera triste. Si on est triste, lo yucha la avod Hashem besimcha o betuv levav, on sera dans l'incapacité de servir Dieu avec joie et enthousiasme. Alors, deux idées ici. Première idée, l'importance de la joie. Il y a un verset qui nous dit « Ivdu et Hashem v'simcha » La joie fait partie du service de Dieu. Pourquoi est-ce que la joie fait partie du service de Dieu? Parce que la Gemara nous dit « Simcha poretz geder » La joie permet de se sortir de ses propres limites. Par exemple, on fait la différence entre Simcha et Oneg. Simcha, la joie, Oneg, le plaisir. Le plaisir, c'est un sentiment interne, un sentiment qu'on peut contenir. Par contre, Simcha, la joie, c'est quelque chose qui nécessairement s'extériorise. Quelqu'un qui est réellement joyeux, c'est quelqu'un qui extériorise sa joie. Si quelqu'un parvient à contenir entièrement sa joie et à ne pas l'extérioriser du tout, ça veut dire qu'il n'est pas réellement joyeux. Donc la définition même de la joie, c'est l'explosion vers l'extérieur. C'est pour ça que dans la Gemara, on nous dit Tsaravu panav, chez Rabbi Abaou, al sheshama shmat tachadata. Rabbi Abaou a eu un plaisir de comprendre une idée nouvelle de la Torah qu'il n'avait pas compris jusqu'à maintenant. Donc, on a vu le plaisir sur son visage, et en même temps, ce plaisir ne s'est pas exprimé à l'extérieur. La définition du oneg, le oneg ne s'exprime pas à l'extérieur. Par contre, la simcha, quelqu'un qui est joyeux, se met à danser. Donc c'est la différence qu'il y a par exemple entre Shabbat et Yom Tov. Shabbat, c'est écrit « Vekarata le Shabbat oneg ». Alors qu'à propos de Yom Tov, on dit Vesamarta Bechagecha. Donc le Yom Tov, il y a une mitzvah de se réjouir, une mitzvah d'exprimer concrètement la joie, qu'on ne retrouve pas dans le Shabbat.
Sauf si Yom Tov tombe Shabbat. Et là, on a les deux notions en même temps.
Qu'est-ce qu'on ferait si tu n'étais pas là, quoi ?
Donc ça serait intéressant, parce que là, on a deux.
Donc, l'idée de la simcha, vous voyez que c'est une idée de la Torah. Yivdu et Hashem v'simcha, c'est un verset de la Torah. Maintenant, là-dessus, la Chassidoute vient ajouter quelque chose de plus. Le Tania va citer un peu plus loin l'interprétation que donne le Harizal d'un verset de la Torah. La Torah nous dit Tachat asher lo avata et Hashem elokecha v'simcha ou betouv levav merov kol ve'avadta et oivecha tachat asher lo avata et Hashem elokecha, parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu, et simcha ou betouv levav, avec joie merov kol, lorsque tu disposais de tout en abondance, alors ve'avadta et oivecha, tu serviras tes ennemis. Rashi explique merov kol kesheraya lecha kol tov. Qu'est-ce que ça veut dire, Merov Kol? Ça veut dire lorsque tu disposais de tout en abondance. Donc, d'après cette interprétation de Rashi, le sens simple du verset, c'est à l'époque du Beit HaMikdash, lorsque on disposait de tout en abondance, à ce moment-là, on n'a pas su utiliser cette abondance pour servir Dieu, et donc la conséquence, Ve'avata et Toivecha, tu serviras tes ennemis, c'est-à-dire on partira en exil auprès de nos ennemis. Donc le Harizal donne une autre interprétation de ce verset. Il nous dit Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha, parce que les mitzvot qu'on a fait à l'époque du Beit HaMikdash, qui étaient des mitzvot parfaites, qui étaient des mitzvot irréprochables, parce qu'elles n'ont pas été faites besimcha, uniquement parce que manquait la simcha shel mitzvah, alors ve'avadta et oivecha. Le simple fait de manquer de joie dans le service de Dieu justifie le départ en exil. Quelqu'un qui accomplit la mitzvah de la façon la plus parfaite, mais sans se réjouir, sans éprouver simcha shel mitzvah, lui, il mérite de partir en exil. Ça, c'est l'explication du Harizal. D'où le... On va laisser pour un autre cours.
Les 48.
C'est bon, ça va. La Gemara Hazaken nous explique ici, si on demande à quelqu'un de ne pas se réjouir, alors il se trouve dans l'incapacité de servir Dieu. Logiquement, il ne peut pas servir Dieu. Donc, d'un point de vue logique, on ne peut pas demander à quelqu'un de se considérer comme un rachat. Donc, s'il se considère comme un rachat, ça va avoir pour conséquence qu'il ne sera pas joyeux. S'il n'est pas joyeux, il est dans l'impossibilité de servir Dieu. Il peut même partir en exil. Donc, c'est impossible d'imaginer que la Torah puisse placer un juif dans une situation où il manque de simcha. Deuxième idée qu'il faut voir ici également, il y a etsev. On a peur que quelqu'un soit triste. Donc il faut faire la différence entre la tristesse Atzvut, Etsev, et l'amertume, Merirut. Différence, elle est fondamentale, au point que la tristesse, c'est un sentiment qui est inspiré par les forces du mal, alors que l'amertume, c'est un sentiment qui est inspiré par les forces du bien. Qu'est-ce que c'est la différence entre la tristesse et l'amertume? Pour commencer, quel est le point commun entre la tristesse et l'amertume? La tristesse et l'amertume sont tous les deux les résultats d'un constat d'échec. J'ai un échec, donc je suis triste. J'ai un échec, donc je suis amer. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on est triste, on est amer en constatant un échec. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre la tristesse et l'amertume? C'est que la tristesse, elle aboutit au renoncement. La tristesse, c'est j'ai un échec, j'y arriverai jamais. Les autres, ils y arrivent, mais moi, j'y arriverai jamais. Donc, si j'y arrive jamais, si j'y arriverai jamais, je peux laisser tomber tout de suite. Par contre, l'amertume, le résultat de l'amertume, et donc ce qui permet de déterminer si l'état d'esprit dans lequel on se trouve, c'est un état d'esprit de tristesse ou d'amertume, c'est que l'amertume conduit au contraire à redoubler son effort. L'amertume, c'est j'y arrive pas, des autres y arrivent. Si les autres y arrivent, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Et donc, si j'y suis pas arrivé jusqu'à maintenant, c'est que mes efforts n'ont pas été suffisants. Et donc, je vais redoubler d'ardeur, je vais redoubler d'efforts de façon à y arriver moi aussi. Donc, vous voyez que on a dit tout à l'heure que arriver à identifier le bien et le mal, c'est pas toujours facile. C'est l'expression de la chassidoute, le Yetzer Hara peut avoir un surtout en soi et un gartel. Ça veut dire le Yetzer Hara peut prendre une apparence de Kdusha où c'est difficile d'arriver à l'identifier comme Yetzer Hara. Donc un des moyens qu'on a d'identifier le Yetzer Hara, si on ne peut pas l'identifier lui-même, c'est en identifiant sa conséquence. C'est ça que la Mishnah nous dit « Eizehu chacham aroe et anolad ». Un chacham, c'est quelqu'un qui est capable d'aller dans son analyse au-delà de la conséquence immédiate. La conséquence immédiate d'une chose n'est pas nécessairement ce qui représente l'ensemble de cette chose. Donc il faut savoir mener son analyse à plus long terme, et des fois une analyse à plus long terme met en évidence des choses qui n'apparaissent pas du tout à court terme. Donc le chacham, c'est celui qui sait aller au-delà de l'analyse immédiate pour voir les choses à beaucoup plus long terme. Le chacham, il est roé et anolad. Il fait porter son analyse beaucoup plus loin. Donc, on voit bien l'application de ce principe dans la distinction entre la tristesse et l'amertume. Si on regarde l'effet de la tristesse, la tristesse implique le découragement. Quelqu'un qui est triste, c'est quelqu'un qui est fermé, qui décide de ne pas aller plus loin. Dès l'instant où il est en état de renoncement, alors l'état de renoncement l'empêche d'avancer dans le service de Dieu. L'amertume, elle conduit à aller beaucoup plus loin. Donc, dans la mesure où elle permet d'aller beaucoup plus loin, alors elle est effectivement positive. C'est ce qui permet de distinguer les deux sentiments. On explique aussi dans la chassidoute que vous savez que avant on avait l'habitude au milieu de la nuit de faire tikkun chatzot, c'est-à-dire une prière spéciale dans laquelle on se lamente sur la destruction du Beit HaMikdash. Et donc les gens avaient l'habitude à l'époque du Beit HaMikdash, les gens avaient l'habitude de faire ma'arif dès la tombée de la nuit, d'aller dormir ensuite et de se réveiller à minuit, chatzot au milieu de la nuit. Je faisais à ce moment-là le tikkun chatzot juste après le milieu de la nuit, et ensuite ils étudiaient la Torah jusqu'au lever du jour, et au lever du jour ils faisaient la prière du matin. Donc actuellement on n'a pas l'habitude de faire tikkun chatzot, et on se base sur le fait qu'actuellement on ne fait plus tikkun chatzot sur la Gemara qui nous dit le tov me'at bekavana me'arve shelo bekavana. Donc il y a des gens qui font une erreur profonde en pensant que la Gemara nous dit il vaut mieux un petit peu avec kavana plutôt que beaucoup sans kavana. Donc de temps en temps j'ai droit de rater mincha parce que j'ai pas toujours la kavana qu'il faut. Donc les tfilotes qui ont été instaurées par les chachamim, on n'a pas le droit de les remettre en cause. Donc, tout état de cause, on doit les faire. Par contre, qu'est-ce que la Gemara veut nous dire? Tov me'at bekavana me'arve shelo bekavana. La Gemara nous dit tikkun chatzot a besoin d'une kavana particulière. Quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir cette kavana particulière, il vaut mieux qu'il ne fasse pas tikkun chatzot. Donc, c'est sur ça qu'on s'est basé pour supprimer la pratique généralisée de tikkun chatzot, qui maintenant n'est fait que par ceux qui sont au niveau de pouvoir le faire, mais ce n'est pas une pratique qui est largement ouverte à tout le monde. Dans la chassidout, on nous explique pourquoi est-ce qu'il y a eu cette évolution. Chaque chose qui se passe dans le monde, ça se passe parce que Dieu le veut. Rien se passer dans le monde qui ne soit pas la volonté de Dieu. Donc pourquoi Dieu a introduit cette évolution dans le monde? C'est parce que, à notre époque, à nous, tout ce qui était appliqué auparavant, au moment de Tikkun Chatzot, se fait maintenant dans Kriyat Shema Shel Amida, le Shema Israël qu'on lit avant d'aller dormir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le matin, quand on prie, la prière doit nécessairement être joyeuse. Ivdu et Hashem Bissimcha, Avoda, Ivdu, ça veut dire prier, et Zouya Avoda Shebelev Zout Fila. On ne peut prier le matin que dans la mesure où on est joyeux. Quand est-ce que la joie est une joie véritable? Lorsqu'elle a été précédée par l'amertume. L'amertume, elle est là pour booster la joie. Et donc, la joie est une joie véritable dans la mesure où elle est précédée par l'amertume. Avant, les hommes avaient une élévation morale plus grande que la nôtre. Donc, ils étaient capables de passer sans transition d'un sentiment à un autre. Et donc, il y avait l'amertume au moment de Tikkun Chatzot, et tout de suite après, la joie au moment de la tfila du matin. À notre époque, à nous, on n'est pas capable, on n'a pas l'élévation morale de nos ancêtres, donc nous, on n'est pas capable de passer sans transition de l'amertume à la joie. On a besoin d'une zone tampon au milieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait que tout ce qui était avant dans Tikkun Chatzot se reporte sur Kriyat Shema Shel Amida, et entre temps il y a le sommeil, et donc c'est le sommeil qui permet de passer d'un sentiment à l'autre. Donc c'est l'amertume du Kriyat Shema Shel Amida de la veille au soir qui permet la joie véritable dans la tfila du lendemain matin. C'est de cette façon là que les deux sentiments se complètent. Donc vous voyez que ici on nous dit il faut écarter totalement la tristesse. La tristesse, c'est un sentiment qui est à bannir. La tristesse, c'est un sentiment qui émane des forces du mal. D'où il y a un verset dans la Torah qui nous dit « Bechol etzev yemota » chaque forme de tristesse présente une supériorité. Dans la Chassidoute, on explique « Bechol etzev yemota » chaque forme de tristesse a une supériorité. Quelle est la supériorité de la tristesse? C'est la possibilité de la transformer en amertume. La tristesse qui reste tristesse est une force du mal. La tristesse devient positive à partir du moment où elle est transformée en amertume. Donc ça, c'est, on pourrait dire, la première question logique qui est posée sur la manière dont l'homme doit se considérer lui-même. Si la Torah demandait à un homme de se considérer comme un rachat, alors elle risquerait de le trouver dans une situation de tristesse, c'est-à-dire dans une situation de blocage du service de Dieu. Quelqu'un qui est triste ne peut pas servir Dieu. C'est une impossibilité théorique. Si on continue le raisonnement, ve'im lo ira levavo, si un homme n'a pas mal au cœur, si quelqu'un prend conscience qu'il est rachat, si quelqu'un prend conscience qu'il ne sert pas Dieu, qu'il ne fait pas ce que Dieu attend de lui, et que ça lui donne pas mal au cœur, s'en fiche, alors à ce moment-là, yachol lavo l'idée kalut, chas v'shalom. Un tel homme peut avoir une légèreté d'esprit c'est-à-dire ne pas savoir prendre à sa juste mesure tout ce qui peut lui arriver. Donc vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, le résultat est négatif. Donc on ne peut pas demander à un homme de se mettre dans une situation dans laquelle il est incapable de servir Dieu. Donc il faut comprendre qu'est-ce que la Torah attend de nous, de quelle manière chacun doit considérer sa propre situation pour être en mesure d'aller de l'avant dans le service de Dieu. Achaim Yanou, donc on va introduire la réponse. Kine Matsino Begmara Hei Chalukot. La Gemara définit 5 catégories d'hommes, 5 statuts différents. Vous voyez que le terme qui est employé ici, c'est chaloukot, c'est-à-dire un terme très peu fréquent. On emploie souvent le mot prinot, madrigot. Ici, on dit chaloukot. Ça veut dire chaloukot. Chilouk, ça veut dire partager au sens opposé. Il ne s'agit pas de 5 catégories qui sont proches les unes des autres. C'est 5 catégories extrêmement éloignées les unes des autres. Il y a 5 catégories et en même temps, ces 5 catégories sont immensément différentes les unes des autres. Alors, si on essaie d'énumérer, on va commencer l'énumération ce soir, on reverra demain plus en détail. Donc, première catégorie, tzadik vetovlo. On a déjà vu ce que c'est globalement un tzadik. Un tzadik, c'est quelqu'un qui n'a pas la perception du mal. Maintenant, il y a plusieurs catégories de tzadikim. Puisqu'on vient de voir que ce sont des chaloukot, ce sont des catégories extrêmement différentes les unes des autres. Donc le tzadik vetovlo, c'est celui qui est au niveau le plus élevé, c'est celui qui n'a pas la moindre trace de mal dans sa personnalité. On peut imaginer quelqu'un qui n'est pas du tout touché par le mal, quelqu'un qui se trouve dans un niveau tellement élevé que le mal du monde n'a aucune emprise sur lui. Par exemple, Le Harizal était à l'enterrement d'un des grands sages de la Kabbalah de l'époque, qui s'appelait le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Et donc le Harizal a prononcé un esped, un éloge funèbre au moment de l'enterrement du Ramak. Et il a dit, c'est écrit dans la Torah, « Keshe iye be'ish chet mishpat mavet » Lorsque un homme commet une faute qui le rend passible d'une condamnation à mort, vehumat, et qu'il a effectivement été mis à mort, vetalita oto al haetz. Après l'avoir mis à mort, il faut le suspendre à un arbre, le suspendre à une potence. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah lorsque quelqu'un a été tué par le Beddin, d'exposer son corps pendant toute la journée de façon à ce que les gens comprennent la gravité de ce qui a été fait et qu'ils ne fassent pas la même chose. Alors le Harizal a expliqué ce passou à propos de Rabbi Moshe Cordovero. Il nous dit que chez yé beish chet mishpat mavet, lorsqu'on voit un homme qui n'a pas la moindre trace de mal en lui, qui n'a absolument rien en lui qui puisse justifier sa mort. Quelqu'un arrive à être à l'abri du mal, à tel point que le mal n'a absolument aucune emprise sur lui. Néanmoins, Vehumat, il est mort. Comment c'est possible qu'un tzaddik qui n'a en lui aucune trace du mal puisse mourir quand même? La mort, c'est bien la manifestation de la présence du mal dans le monde. Si quelqu'un se trouve dans une situation où le mal n'a pas la moindre emprise sur lui, Vehumat, et il est mort, comment est-ce qu'il peut mourir dans ce cas-là? La Harizal nous dit, Vetalita oto al haetz. Vetalita, tu le pendras. Vetalita, ça veut dire aussi tu feras dépendre. Vetalita oto, tu feras dépendre sa mort. Beetz, de la faute du etz hada'at. C'est uniquement parce que la faute du etz hada'at a mélangé le bien et le mal dans le monde que ce tzaddik-là peut mourir. Ce tzaddik se trouve dans une situation où il échappe totalement à l'emprise du mal. Donc, lui-même, dans son comportement, il n'y a rien qui justifie que la mort puisse avoir une emprise sur lui. Et c'est uniquement parce qu'il se trouve dans un monde où la faute du chet etz hada'at a eu lieu qu'il a pu mourir. Ça, c'est le niveau de tzaddik vetovlo. C'est quelqu'un pour qui le mal n'existe pas au point qu'il est complètement au-dessus de l'existence de ce mal. On verra d'autres explications. Pour l'instant, on va se contenter de celle-là dans un premier temps. La deuxième catégorie, c'est tzaddik veralo. Tzaddik veralo, on va retenir dans un premier temps que c'est un tzaddik qui a en lui une petite partie de mal. Mais ce peu de mal qu'il a dans sa personnalité est en quantité tellement infime qu'il n'a pas d'incidence sur son comportement. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune différence entre le comportement d'un tzaddik vetovlo et le comportement d'un tzaddik veralo. Néanmoins, le tzaddik vetovlo n'a jamais eu la moindre perception du mal, alors que le tzaddik veralo a une certaine perception du mal en lui, qui néanmoins n'affecte pas son comportement concret. Un exemple matériel qui permet de le comprendre. Vous avez une casserole dans laquelle il y a 60 kg de viande. Vous versez dedans, sans le faire exprès, 1 litre de lait. Donc vous savez que le din est que dans la mesure où le lait est en quantité 60 fois inférieure à la viande, l'ensemble reste cachère. Ça veut dire que l'ensemble, tout le contenu de votre casserole est considéré comme de la viande. Néanmoins, avant d'avoir versé le litre de lait, si vous mettez votre casserole sur une balance, vous allez trouver 60 kg. Après avoir versé le litre de lait, si vous mettez votre casserole sur une balance, vous allez trouver 61 kg. Ça veut dire que vous arrivez à avoir quelque chose qui, d'après la halakha, est considéré comme 61 kg de viande, alors qu'en réalité, si on regarde ce qui s'est passé réellement, vous avez 60 kg de viande plus 1 kg de lait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le lait qu'on a mis à l'intérieur de la viande est en quantité suffisamment infime pour être intégré à la viande. Et donc, bien qu'il y a une opposition totale entre le lait et la viande, ce lait arrive à être considéré comme s'il était de la viande. Voilà ce que c'est qu'un tzaddik veralo. Il a en lui une petite partie de mal. Cette petite partie de mal, elle est en quantité tellement infime qu'elle s'est intégrée au bien qu'il y a dans sa personnalité. Donc, globalement, il est considéré comme s'il était un tzaddik. C'est pour ça que, par exemple, David Ameler dit « Velibi halal bekirbi » Mon cœur est détruit en moi. Rashi explique, ça veut dire Velibi halal bekirbi chez Enlo Yetzerara chez Hargo Betaanit. David Ameler n'a plus de mauvais penchants parce que il a détruit par le jeûne. Donc vous voyez que d'après les définitions qu'on a données avant, quelqu'un qui a un Yetzerara n'arrivera jamais à le détruire. Il peut jeûner toute sa vie, le jeûne ne suffit pas à détruire le Yetzerara. Donc vous voyez bien que ce que Rashi nous dit ici, on ne peut pas le prendre au sens littéral. Donc c'est ça l'explication. David Ameler, au moment de sa naissance, était un tzaddik veralo. C'est-à-dire qu'il avait un peu de mal au sein de sa personnalité, mais ce peu de mal était en quantité tellement infime qu'il ne modifiait pas son comportement. Seulement, David Ameller savait qu'il était tzadik veralo et il voulait devenir un tzadik vetovlo. Donc, il a jeûné un nombre de jeûnes suffisant pour pouvoir supprimer la trace de mal qu'il y avait dans sa personnalité. De cette façon-là, il s'est transformé lui-même de tzadik veralo en tzadik vetovlo, ce qui est effectivement possible. Néanmoins, pourquoi le jeûne a pu supprimer le peu de mal qu'il avait en lui ? Parce que déjà, avant même qu'il commence à jeûner, il était un tzadik. Et le peu de mal qu'il avait en lui n'avait aucune incidence sur son comportement.
Mais pourquoi on dit Yetzerara alors ? On ne veut pas dire Yetzerara.
Si alors, c'est pas Yetzerara au sens simple dans ce cas-là. Tu vois bien, il y a des fois où la Torah emploie quelque chose et on a besoin d'une interprétation. Torah be pirusha nitna. La Torah a été donnée avec son interprétation. Parce que lui, à titre personnel, ça le gênait. Peut-être que quelqu'un d'autre n'aurait pas été gêné. Lui, il était gêné. Lui, il voulait à tout prix. Hein ? Non. Dans son comportement, il était un tzaddik de toute façon. D'ailleurs, s'il n'était pas tzaddik, il n'aurait pas senti qu'il y avait cette petite marque de mal en lui qui n'affectait pas son comportement. Maintenant, lui, c'était David Ameller. David Ameller, c'est quelqu'un qui a une élévation particulière. Et donc, lui, à titre personnel, il est gêné par ce peu de mal qu'il y a en lui. Peut-être que quelqu'un d'autre, un autre tzaddik veralo qui n'aurait pas été aussi grand que David Ameller, lui, il n'aurait pas été gêné. Lui, il était gêné.
Est-ce que lui, il ne se considérait pas comme un ménoïde ?
On verra après. Ensuite, troisième catégorie, Racha Vetovlo. Racha Vetovlo. Donc, un rachat qui a le bien pour lui, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire
symétrie.
Au-delà de la symétrie, on trouve une expression de la Gemara extrêmement surprenante. Poché Israël, vous savez que Poché-a, ça veut dire quelqu'un qui agit mal en conscience, le méside. Donc la Gemara nous dit Poché Israël mle'im charatot. Les impies d'Israël sont pleins de regrets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que un rachat, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est content d'être un rachat. Quelqu'un qui ne regrette pas son mauvais comportement. Un rachat, ça peut être aussi quelqu'un qui regrette ce qu'il fait. Un rachat, il a des regrets. Simplement, pourquoi est-ce que malgré ses regrets, il est rachat ? C'est parce que ses regrets ne tiennent pas. Au moment où il regrette sincèrement, et puis la fois suivante où il est confronté à la faute, le fait qu'il a eu des regrets auparavant n'est pas suffisant pour qu'il ne fasse pas la faute encore une fois. C'est la raison pour laquelle, même qu'il est plein de regrets, il est considéré comme un rachat.
Dans la lutte, il faut.
Oui, absolument. Ça veut dire que d'un côté, au moment où il a un regret, au moment même du regret, il est sincère, et néanmoins, le sentiment de regret, le sentiment de tchouva que ça lui inspire, n'est pas suffisamment fort pour modifier son comportement, ce qui veut bien dire qu'au final, il reste un rachat. Je parlais tout à l'heure de la difficulté d'identifier le mal. Alors là aussi, on en voit une application. On pourrait penser a priori que le regret, regretter la faute, c'est nécessairement quelque chose de bien. Lorsque je regrette une faute, c'est nécessairement le Yetzer Tov qui m'insiste à regretter la faute. Donc la Torah nous apprend qu'il y a des regrets qui sont suggérés par le Yetzer Tov et il y a des regrets qui sont suggérés par le Yetzer Hara. Qu'est-ce que ça veut dire ? On trouve un verset dans Michelet, il y a un verset qui nous dit « Nofet titofna Sifte Zara, les lèvres de l'étrangère sont douces, Veacharita Mara Kelaana. Et une fois qu'elle retire les lèvres, elle laisse un goût amer comme de l'absinthe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment même de la Avera, elle est douce. Et puis, après que la Avera est finie, alors on regrette en se disant comment j'ai pu faire une chose pareille. Et la Torah vient nous dire, le même Yetzerara qui inspire la douceur de la Avera, il va inspirer également l'amertume du regret. Alors comment est-ce que je peux savoir si le regret vient du Yetzer Tov ou si le regret vient du Yetzer Hara? Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un regret qui vient du Yetzer Tov inspire l'amertume. Un regret qui vient du Yetzer Hara inspire la tristesse. Un regret qui vient du Yetzer Hara va me dire « j'y arriverai jamais ». J'ai fait la Avera, c'est pas de ma faute. Je suis attiré par la Avera, je peux pas faire autrement. J'arrive pas à me contenir. Donc c'est pas à peine que je fasse des efforts, de toute façon j'y arrive pas. Ça c'est un regret inspiré par le Yetzana. Par contre, le regret qui conduit à l'amertume, il faut que je m'en sorte. Je peux pas me maintenir dans cette situation-là, il faut que j'arrive à m'en sortir. Ça c'est un regret qui est inspiré par le Yetzana. Et ensuite, donc il y a Racha Veralo. Racha Veralo, ça veut dire celui qui fait des averot en conscience et qui ne les regrette pas du tout. Alors sachez que, de même que Tzadik Vetovlo, ça représente une immense élévation, et ce n'est pas donné à tout le monde, et il y a extrêmement peu de Tzadik Vetovlo, comme il y a très très peu de Tzadik Vetovlo, il y a également très très peu de Racha Veralo. On pourrait dire que c'est pratiquement aussi difficile d'être Racha Veralo que d'être Tzadik Vetovlo. Racha Veralo, c'est quelqu'un qui a conscience de faire le mal, qui agit en délibérément, en sachant exactement que ce qu'il fait, ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et une fois qu'il agit à l'encontre de la volonté de Dieu, alors il ne regrette pas ce qu'il a fait. Et donc, descendre tellement bas dans le monde, dans le mal, c'est très difficile. Attention, Amalek n'est pas juif. Là, on parle des Neshamot, des juifs. Là, on peut citer, par contre, Acher. Acher, c'est le Elisha ben Abouya. Alors, on voit que c'est écrit au moment de son enterrement. La Gemara nous dit, il y a une Batkol Machrezet, il y a une voix qui est sortie du ciel. Dieu a dit, j'accepte la tshuva de tout le monde, Khutzme Acher, sauf celle de Acher. Lui, il ne peut pas faire tshuva. Rashi explique pourquoi lui ne peut pas faire tshuva. Chez Ra'a Bikvodi. Lui, il a vu mon honneur. Lui, il a compris ma grandeur. Lui, s'est révolté contre moi après avoir été pleinement conscient de ma grandeur. Donc lui, il ne peut pas faire tshuva. C'est ça un Racha Veralo. Racha Veralo, c'est quelqu'un qui agit parfaitement en conscience, qui sait exactement ce qu'il fait et qui le fait quand même. Acher, c'était, il y a quatre qui sont rentrés en même temps dans le Pardès, qui ont accédé au plus haut niveau de connaissance de la Torah. Rabbi Akiva, le Ben Azai, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya. Donc ce Rabbi Akiva en dit le Nichnas Beshalom ve Yatsa Beshalom. Sur les trois autres, malheureusement, on m'a fini. En tout cas, être un Racha Veralo, c'est très difficile. Et le cinquième, donc, c'est le Beinoni, sur lequel on reparlera plus tard.
Les deux niveaux de tzadik, les deux, ils sont nés dans le tzadik Vetovlo, il est né tzadik Vetovlo. Alors, quel est le travail du tzadik Vetovlo? Il n'a pas de mal.
On l'a dit hier. Tzadik Veralo, comme le tzadik Vetovlo, son but, c'est d'élever la matière du monde. Lui, il n'a pas d'emprise du mal. Lui, lui, il a tendance à se retirer du monde, et sa avoda, c'est au contraire de s'investir pleinement dans le monde.
Je fais une autre question. Vous allez dire, comment ça se fait que le Kriyat Shema il remplace le Tikkun Ratzot, et donc le Kriyat Shema on doit avoir de l'amertume?
Parce que c'est uniquement l'amertume qui peut conduire à la joie. Et c'est uniquement l'amertume du Kriyat Shema de la veille qui conduit à la joie de la Tfila du matin.
L'amertume que le Beit HaMikdash il a été détruit?
Non, l'amertume du faute. L'amertume, c'est la conscience des échecs que j'ai eu dans la journée qui ont pour conséquence que je veux que demain soit différent et que demain j'ai pas les échecs que j'ai eu aujourd'hui.